tous, il est mardi, il est 13h, l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire pour échanger des ondes positives. On s'installe confortablement, on change de rythme, on prend un peu de recul et voilà, l'émission peut commencer. Cette semaine, Ondes Positives accueille Pierre. Bonjour Pierre et bienvenue.
Bonjour Dorothée.
Pierre, 50 ans, manager dans le secteur industriel, tu vis en région toulousaine. Par discrétion, tu préfères ne donner que ton prénom.
C'est
ça. Tu viens aujourd'hui nous parler d'une rencontre très positive. Cette rencontre, c'est celle que tu as faite avec la danse et qui te permet aujourd'hui d'être un homme très épanoui.
Exactement.
Alors tu vas évidemment nous raconter cette rencontre avec la danse en détail. Mais pour donner un avant-goût des messages positifs que tu portes, on peut dire que le chemin pour l'épanouissement personnel, c'est parfois d'aller au-delà des a priori et des préjugés, n'est-ce pas ?
Mais c'est exactement ça que, pour ça que je viens aujourd'hui, pour témoigner sur ce point-là en fait. Puisque j'avais un rapport avec la danse qui était très particulier. Je pensais que c'était un milieu où les gens qui la pratiquaient étaient plutôt vieux jeu, qu'il y avait très très peu de choses qui me correspondaient dans ce monde-là.
Oui.
Et ça, c'est une conviction que j'avais depuis toujours, une croyance que j'avais jamais remise en question.
Oui.
Et j'ai dû avoir des événements particuliers dans ma vie, en fait, pour un jour rentrer dans un cours de danse et découvrir en fait un monde merveilleux.
D'accord.
Et donc, c'est un petit peu de ça dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui.
Super. Bon Pierre, on peut dire que tu as toujours été un homme occupé hein, depuis l'âge adulte, une vie très remplie.
Oui, puisque j'ai commencé à travailler assez tôt, à 19 ans en fait.
Oui.
Et très rapidement, j'ai eu des postes à responsabilité dans l'industrie. Donc j'étais très très occupé par rapport à ça. Une vie de famille aussi assez tôt, puisque j'étais père à 22 ans. Voilà, donc j'ai beaucoup avancé dans la vie, toujours très occupé, j'ai fait beaucoup de sport, de choses comme ça, mais un rythme toujours très rapide. Hein.
Et malgré cette occupation, tu ressentais de l'ennui intérieur ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je voyais autour de moi beaucoup de gens qui étaient passionnés par beaucoup de choses dans la vie,
oui.
Que ce soit par l'art, par la culture, par la musique, etc. Et moi, en fait, je suis quelqu'un qui n'avait pas de passion.
Oui.
Donc ça me posait un petit souci au quotidien, c'est que malgré que j'ai une vie de famille, un travail, que j'aimais mes enfants, etc., ben j'avais un ennui parce que j'avais pas de passion.
Mais en quoi c'était gênant pour toi ça ?
Alors, c'était gênant parce que concrètement je m'ennuyais et je voyais qu'il y a des gens qui ne s'ennuyaient pas parce qu'ils avaient des passions.
Oui.
Et donc je passais beaucoup de temps devant la télé, à laisser passer le temps et j'avais du mal à m'occuper en fait.
D'accord.
Très clairement.
Tu avais l'impression d'être en quête de quelque chose ?
Ah oui, complètement.
Oui.
Complètement. J'avais en fait le sentiment que j'avais des choses à exprimer,
oui.
Que je n'arrivais pas à exprimer, mais je savais pas quoi. Et donc c'était assez compliqué à gérer.
Donc j'imagine que tu as essayé le foot, le Scrabble, enfin toutes les activités que tes amis t'ont proposées.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça. J'ai essayé beaucoup de choses en fait. Alors il est vrai que le sport et les sports collectifs m'ont beaucoup apporté. Mais on peut pas dire que c'était une passion. C'était quelque chose qui était nécessaire. C'est-à-dire ça m'apportait beaucoup de choses d'un point de vue physique. Équilibre psychologique, alimentaire, etc.
Oui.
Et par contre, en termes de plaisir pur, de passion, de bien-être, etc., je ne m'y retrouvais pas quand même. Il
D'accord.
me manquait quelque chose.
Alors, vers l'âge de 30 ans, tu as même fait une liste de tous tes besoins pour essayer de rationaliser ça, d'y trouver une solution. C'est ça ?
C'est ça, exactement. Ouais. J'ai essayé de faire ça de façon très pragmatique, puisque quand ça n'était pas pragmatique, je ne trouvais pas. Donc, j'ai fait ça, et à partir de cette liste, je me suis mis en quête de chercher des activités ou autres qui pourraient répondre à ces besoins. Et en fait, c'était vœu pieux, je n'y arrivais pas. Malgré cette liste, j'ai regardé toutes les associations qui existaient, tous les clubs de sport, le travail, j'ai remis aussi en question mon travail.
Oui.
J'ai regardé dans toutes les directions et je trouvais pas.
D'accord.
Du tout.
T'es même allé voir deux psychologues.
Tout à fait.
Oui. Alors, bon, ça m'a amusé là, ce que tu m'as dit. Parce que donc tu as travaillé avec eux, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et puis donc, au bout de ce travail, qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais en fait, ils m'ont dit qu'ils me plaignaient et qu'ils ne pouvaient rien pour moi. Parce que chaque fois qu'ils essayaient de m'orienter vers des plaisirs qui pourraient correspondre à mes besoins, et je leur disais toujours que moi, je n'avais pas de plaisir. Donc ils me disaient, oui, mais la musique, vous aimez ? Non, j'aime pas. La peinture, vous aimez ? Non, j'aime pas.
Oui.
Et ça, vous aimez ? Non. Et donc, les pauvres étaient complètement désabusés par
D'accord.
rapport à ces réponses-là. Et ils m'ont dit, ils m'ont fait comprendre qu'ils pouvaient rien pour moi. En fait.
Ça doit être assez terrible de ressortir d'une consultation chez un psychologue et d'entendre, mais mon bon monsieur, je vous plains, vous êtes un cas désespéré.
C'est déprimant.
C'est déprimant, ouais.
Alors en fait, j'ai pas fait des longues séances puisque les deux psychologues que j'ai vus, j'y suis allé une fois chez chacun.
Oui.
Je suis resté une heure avec eux à discuter. Mmh. Donc ils ont très rapidement vu comment j'étais calibré psychologiquement,
oui.
Que je savais à peu près où j'en étais.
Mm-hmm. Que tu étais par ailleurs quelqu'un d'équilibré.
Oui, tout mm-hmm. à fait. Mm-hmm. Donc ils ont pu lire à travers moi qui j'étais, comment j'étais, etc. Et ils m'ont fait comprendre qu'effectivement, si j'avais aucune passion et que j'étais aussi pragmatique que ça, ça allait être très compliqué pour moi.
D'accord. Donc tu étais un homme équilibré, tu avais tout pour être heureux, on va dire, socialement, tout pour être
oui.
heureux, mais frustré parce que ce manque de passion, pour toi, c'était vraiment ça, quoi.
Oui, oui, j'avais un manque permanent, oui.
Mmh. Ok. Et tu m'as même dit que tu vivais ce manque comme un combat.
Ben oui, parce que je voyais les gens heureux autour de moi qui arrivaient à s'exprimer, qui arrivaient à vivre des choses en collectif, qui étaient, entre guillemets, heureux.
Mm-hmm.
Le bonheur, moi, je le définissais un petit peu comme ça. Pas seulement le travail, pas seulement la famille, etc.
Oui.
Parce que même en famille, j'arrivais pas à trouver des activités qui m'épanouissaient, etc.
D'accord.
C'était assez compliqué. Donc, j'avais de l'envie, j'avais du besoin, et je sentais au fond de moi que j'avais vraiment des choses à exprimer, que je n'exprimais pas.
D'accord. Et puis, à 42 ans, tu te retrouves seule pour la première fois de ta vie.
Oui.
Donc tu vis une rupture conjugale.
Oui.
Ta fille part vivre avec sa mère.
C'est ça.
Et donc tu te retrouves seule.
Voilà, donc en plus de cette quête que j'avais par rapport à la nuit, etc., tout d'un coup je me retrouve sans cet équilibre familial.
Oui.
Et donc la solitude est arrivée encore plus fort.
Mm-hmm.
Et donc pour moi, ça a été très très difficile. C'était un moment très compliqué en fait à gérer.
Oui.
Et dans ces moments-là, j'avais encore plus de temps pour chercher.
Oui.
Donc je cherchais toujours, je trouvais toujours pas.
Mm-hmm.
Et donc j'ai fait beaucoup de sport. Je faisais 4 heures de sport par semaine,
mm-hmm.
en plus de mon travail qui me prenait beaucoup de temps.
Oui.
Donc c'était du sport entre midi et deux, c'était le soir après le travail.
Oui.
Mais tout ça pour tenir le coup en fait.
Mm.
Pour pas sombrer quelque part. C'est une période assez compliquée pour moi.
D'accord. Et c'est à cette période où tu passes devant une salle de sport un jour.
Voilà, donc un jour je passe devant une salle de danse,
oui.
En fait.
D'accord.
Et je vois qu'il y a des cours gratuits qui sont ouverts à tout le monde en fait.
Mm-hmm.
J'y passe devant et bon, j'y rentre pas dedans, je rentre chez moi, etc.
Mm-hmm.
Et après je réfléchis, je me dis finalement qu'est-ce que j'ai à perdre. Puisque je suis en quête, que je cherche toujours, j'ai rien à perdre à y rentrer dedans, étant absolument convaincu que ça m'apporterait rien.
Tu t'y étais jamais intéressé à la danse auparavant? Tu avais pas essayé?
Non, j'avais jamais mm-hmm. essayé parce que donc j'avais déjà cette idée dont j'ai parlé au début.
Ouais, c'est a
plus,
priori.
Voilà.
Mm-hmm.
Et en plus, je pensais que j'étais un petit peu psychomoteur puisque j'avais du mal à gérer mes membres les uns par rapport aux autres. Et notamment quand je sortais, les rares fois où j'étais allé en discothèque, des choses comme ça,
mm-hmm.
je bougeais très mal, j'étais très mal à l'aise avec mon corps.
Mm-hmm.
Donc je me disais, bon, ça, plus le reste, les idées préconçues que j'avais, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour moi.
D'accord, donc non seulement il y avait des croyances négatives sur la danse et l'univers de la danse, mais en même temps, une croyance négative sur toi, sur ta capacité à danser, tout simplement.
Complètement, complètement.
D'accord, donc la totale, hein, c'était vraiment dans ta tête rédhibitoire
c'est
pour
ça.
La danse.
Ouais. C'est ça.
Et qu'est-ce qui se passe justement le soir en rentrant chez toi en te disant j'ai vu cette affiche mais je vais y aller?
Et ce qui s'est passé, c'est que comme tout le parcours de ma vie, j'avais essayé un petit peu tout,
mm-hmm.
un désespoir de cause, je me suis dit que là j'avais pas plus à perdre que les fois précédentes.
Oui.
Donc je me suis dit je vais y aller et puis je verrai bien.
Mm-hmm.
Voilà.
D'accord.
Mais j'y suis allé tout triste, hein, je suis pas allé tout gai,
oui.
mais toujours en quête du bonheur quand même, hein, c'était vraiment, je savais ce que je cherchais.
Tu y vas un peu en désespoir de cause, c'est ça?
Oui, oui, oui. Là, comme je suis allé n'importe où, en fait.
Mmh, d'accord. Alors, tu vas faire un cours d'essai.
Oui.
D'accord. Tu as emmené un extrait musical avec toi.
Oui.
Donc, on va le partager et puis on parle de ton cours d'essai juste après.
Avec plaisir.
Siempre hay alguien. todo aquel que piense que la vida es cruel, nunca estará solo, Dios está con él.
La vida es un carnaval, Celia Cruz. Alors, pourquoi ce choix, Pierre ?
Alors, ce choix, parce qu'en fait, ça me ramène en fait à cette époque où j'ai commencé la danse, la salsa.
Oui, la salsa.
C'est une des premières musiques que j'ai entendues, assez souvent, que je passais en boucle dans ma voiture et qui me rappelle vraiment ce moment-là.
D'accord, tes premiers pas de danse.
Exactement.
Alors, raconte-nous ce premier cours d'essai. Comment ça se passe ?
Alors, ce premier cours d'essai, en fait, donc je suis entré dans la salle, je vois des gens qui sont en cercle.
Oui.
On me dit, ok, ben allez vous installer là-bas, face à la dame.
Mmh.
Et on m'explique qu'on va tourner, changer de partenaire et faire des pas de danse.
D'accord.
Donc, je me dirige vers cette partenaire, en fait.
Mmh.
Et c'est une dame assez âgée, pas très grande, qui a un air qui est pas très sympathique, en fait.
Oui.
Et quand elle me voit arriver, elle se tourne vers sa copine et elle lui dit, mais t'as vu avec quoi je tombe ?
D'accord.
Donc là, je m'arrêtais quelques instants et je me dis, tiens, mais où je suis tombé ?
Eh oui.
Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Je m'en vais en courant ou pour moi, c'est un accueil très négatif.
Mm-hmm.
Et en fait, non, je continue. Donc, je m'approche d'elle et on fait le premier pas de danse.
Oui.
Et là, je crois qu'elle se retourne vers sa partenaire et elle dit, en plus, il ne sait même pas danser.
Oui.
Voilà, donc c'est une dame qui était antipathique, qui faisait des remarques désobligeantes, etc. Et en fait, ça aurait dû me faire fuir. Et au contraire, j'ai compris qu'en regardant un petit peu autour de moi, que j'étais dans la diversité, qu'il y avait des gens très très différents, que c'était entre guillemets une activité de contact.
Mmh.
On est très très près de gens très différents et qu'en fait ça allait être une découverte permanente avec tous les gens que j'avais autour de moi.
Oui.
Et que ça pouvait être une fabuleuse aventure.
Donc tu réagis très positivement alors
oui.
que tu étais plein de préjugés par rapport à la danse.
C'est ça.
Et qu'en effet on peut imaginer qu'avec un accueil pareil tu partes en courant.
C'est ça. Avec oui. les préjugés que j'avais et ce qui s'est passé, j'aurais dû partir.
Oui.
Or je suis resté parce que j'ai compris ce qui allait se passer par la suite.
Mmh.
Parce qu'après effectivement j'ai changé de personne pour danser.
Oui.
Et que chaque fois c'était une nouvelle aventure humaine avec une nouvelle découverte, avec des rapports différents dès les premiers contacts,
mmh.
avec la technicité au niveau de la danse. Il fallait arriver à gérer les corps qu'on avait en face de nous, gérer notre propre corps.
Oui.
Et j'ai compris donc qu'il y avait plein de choses à gérer et tout me plaisait. Tout me plaisait en fait.
D'accord. Donc tu vas apprendre ce que tu nous dis, c'est l'apprentissage de la tolérance, c'est ça ?
Alors c'est pas l'apprentissage de la tolérance, mais j'ai compris que c'était un milieu où il fallait être extrêmement tolérant.
Mmh.
Et ça m'a appris surtout à me rapprocher de gens qui étaient très différents de moi
mmh.
et que je n'aurais jamais côtoyé dans d'autres univers.
D'accord.
Et là, on est vraiment très très proches puisqu'il y a un contact physique.
Oui.
Et en plus, il faut partager une activité avec ce contact physique. Donc c'est très particulier, c'est mmh. très fort.
C'est compliqué de partager quand on a dans les bras quelqu'un que, avec qui on n'a pas d'intérêt particulier, qu'on ne connaît pas.
Oui, oui c'est particulier, oui.
Oui.
Particulier, mais c'est intéressant, justement. Ça ouvre l'esprit et ça amène vers la tolérance, si toutefois on était intolérant.
Oui.
Et ça oblige à avoir de la tolérance, c'est certain.
D'accord.
Sinon, on ne peut pas le faire.
Est-ce que c'est dès le premier cours que tu commences à ressentir les émotions et le bien-être dans la danse ?
Ça a été immédiat. Ça a été tout de suite, en fait.
D'accord.
Tout me plaisait. La musique, les gens, l'activité, le fait que j'avais compris que c'était une création qu'on faisait à deux, en fait.
Mm-hmm.
Que c'était chaque fois différent. Donc, il fallait avoir beaucoup d'écoute, beaucoup de communication non-verbale.
Oui.
Et tout ça, ça me plaisait énormément.
D'accord. Donc tu vas rentrer dans une sorte de frénésie de la danse dans un premier temps.
C'est ça.
Oui.
Oh, ça m'a jamais quitté. Hein. J'y suis toujours.
Toujours. Ouais. Alors comment ça se passe cette frénésie à l'époque il y a 8 ans au quotidien ça veut dire quoi?
La frénésie, c'est de l'envie d'aller toujours plus loin. Mm-hmm. Toujours plus loin dans le contact avec l'autre, dans l'apprentissage de la danse, dans la compréhension aussi de la danse, la compréhension de son corps, comment ça marche, synchroniser le corps avec la musique. Donc chaque fois, c'est une création à chaque fois, c'est une évolution personnelle, évolution humaine, évolution du corps, évolution, beaucoup d'évolution en fait.
Mm-hmm.
Et avec le sentiment qu'il n'y a pas de fin, que c'est un apprentissage qui va durer toute la vie et quelque chose qui pourra emporter très très longtemps.
D'accord.
Tout ça, c'est très très agréable en fait.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'à cette époque-là, tu étanches une sorte de soif que tu as eue pendant 20 ans, la soif d'avoir une passion, d'avoir le truc qui te fait vibrer, et maintenant que tu l'as, ben, tu bois jusqu'à plus soif. Ça ressembler à ça.
Oui, complètement, ouais. Complètement.
D'accord. Et puis, tu me disais aussi que tu fais l'expérience de la rencontre sans chichi. Alors ça m'a marqué.
J'ai dit ça, moi.
Ouais, quand on a préparé l'émission, tu m'as dit en fait... quand on se rencontre en cours de danse, eh bien, c'est simple.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les codes sociaux qu'on peut rencontrer.
Oui.
Ou quand on se rencontre dans la rue ou dans le monde professionnel, etc. Tout le monde joue un rôle et dans une posture.
Mm-hmm.
Et en fait, dans le monde de la danse, on n'a pas cette problématique-là, puisque quand on se rencontre, qu'on soit grand, gros, vieux, jeune, quelle que soit la nationalité, etc.
Mm-hmm.
Eh bien, on est dans ce seul rapport de la danse et on doit ensemble créer quelque chose. Sur ce seul rapport. Donc, on oublie beaucoup de choses, en fait, et on n'est plus dans une posture, on ne joue plus un rôle.
Mm-hmm.
Donc, on se retrouve très facilement et on est près des gens très facilement, en fait.
D'accord. On peut imaginer de l'extérieur hein, que les cours de danse, surtout pour les hommes, c'est surtout un plan drague. Et que justement, chacun est dans son rôle, l'homme dans le rôle du séducteur, et puis la femme dans le rôle de celle qui va être séduite, ou dans le rôle peut-être d'un objet. On pourrait imaginer que certaines dames se disent ça.
Alors il est vrai que c'est un préjugé que j'avais également.
Mm-hmm.
Il est vrai aussi que la drague existe dans le monde de la danse, faut pas se le cacher, ça existe.
Oui.
Mais il y a aussi toute la dimension que je viens d'expliquer, qui elle est très très différente. Il y a énormément de gens qui se situent... ou qui gère la danse comme moi je la gère, et comme je vous l'ai expliqué.
Oui.
Donc la drague, après en soirée, elle y est forcément, puisque ce n'est pas que les cours de danse, c'est aussi les soirées.
Mm-hmm.
Donc elle y est, mais il y a des gens qui se situent par rapport à ça, qui rentrent dans ce jeu-là ou qui n'y rentrent pas. C'est un choix.
D'accord.
Et c'est vrai que la proximité facilite les contacts aussi de ce type-là, c'est mm-hmm. évident.
Tu danses combien de fois par semaine tu dansais combien de fois et quand tu as découvert la danse?
Bon, dès le début, j'ai dansé 4 à 5 fois par semaine en fait.
D'accord. En salsa?
En salsa.
Ouais.
Ouais.
Et combien de temps ça t'a pris pour maîtriser cette danse, pour avoir du plaisir en la dansant?
Alors le plaisir, je l'ai eu tout de suite, ouais. Immédiatement. C'est-à-dire que je connaissais un pas, et j'étais capable de sortir avec ce seul pas
mm-hmm.
et danser toute la nuit.
Ouais.
Donc ça me plaisait tout de suite.
En faisant ce pas à répétition toute
voilà.
la soirée.
Voilà. Alors les partenaires n'étaient pas forcément très contents, mais, mais
oui.
ça se faisait quand même.
D'accord.
Et après, la salsa, pour être libérée, c'est-à-dire être autonome hein, par rapport à la danse, me lâcher complètement, il m'a fallu 2 ans.
D'accord.
À peu près. Sinon, avant, c'était un petit peu Robocop.
Oui.
Je reproduisais des choses sans vraiment ressentir complètement la musique.
Mm-hmm.
Et un jour, bon, le déclic a été à force de travailler et il m'a fallu 2 ans.
D'accord. Alors, on va écouter ton deuxième choix musical et puis on parle ensuite de toutes les découvertes que t'a apporté la danse.
D'accord.
El tiempo pasa y pasa y yo sigo así, queriéndote mis brazos sin poder detener, y busco una salida para no irme así. Ay, qué lejos de mi lado tu amor está de mí. Yo lloro y lloro al saber que no estás, con mis labios mira mami yo te quiero besar, y trato y trato por no sentirme así, pero es malo saber. Quieres a mí. Mira cómo estoy sufriendo. Me quemo por dentro por sentir tu amor, sentir tu amor. Mami, no me hagas eso. Sabes que te quiero.
te amo, te extraño, quiero ver junto a mí, abrazado de las manos y estar junto a ti. Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí. Oh baby, what you gotta be doing this to me? Me duele tanto el saber que ya no eres para mí.
Y ese lindo pedacito que contigo compartí.
Me duele tanto saber que ya no eres para mí.
Te extraño.
Alors là, c'est de la bachata.
Oui, c'est ça, mm-hmm. La bachata.
Alors, tu peux nous en parler ?
Oui, dans la bachata, je l'ai découverte au bout de 2 ans à peu près de danse, quand j'ai commencé à maîtriser la salsa.
Oui.
Puisque comme je maîtrisais la salsa, j'ai eu envie encore de rester dans la frénésie de la découverte.
Oui.
Et donc, j'ai dit, ok, je vais essayer une autre danse que j'avais déjà entendue un petit peu.
Mm-hmm.
Et donc, je me suis orienté vers la bachata.
En quoi c'est différent de la salsa ?
Alors la bachata en fait est d'origine plutôt dominicaine, la salsa est d'origine plutôt cubaine.
Mm-hmm.
Et la bachata est un petit peu plus sensuelle que la salsa,
oui.
Et se danse un petit peu plus près.
D'accord.
Et elle aussi je dirais un petit peu plus technique, parce que plus on se rapproche, plus il y a d'imbrication, plus c'est difficile de guider la partenaire.
D'accord. Et toi au niveau de ton ressenti de danseur, alors qu'est-ce que tu vas préférer quand tu auras maîtrisé ces deux danses ?
Alors, plus j'ai avancé dans la danse, en fait, mmh. plus j'ai aimé la proximité.
Mmh.
Parce que plus on est proche avec le partenaire, plus c'est difficile de danser et plus il faut de communion entre les deux.
D'accord.
C'est un partage qui est encore plus grand, encore plus technique. Et ça, c'est quelque chose que j'adore.
D'accord. Tu te réalises dans la difficulté.
Ah, exactement. Exactement.
Alors, on disait que la danse avait été pour toi l'occasion de faire plein de découvertes. Notamment la découverte de l'autre et d'autres cultures. De l'autre d'une façon générale.
Oui.
Oui.
Oui, dans la mesure où aujourd'hui j'ai des amis, des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi.
Mm-hmm.
J'ai des amis qui sont beaucoup plus jeunes. C'est que je danse avec des filles qui ont 17 ans, 18 ans. J'ai 50 ans quand même.
Mm-hmm.
Sur des danses de proximité.
Oui.
Donc pour ça, il faut beaucoup de tolérance. Il faut être vraiment dans le respect de l'autre, etc. Donc il y a beaucoup de dimensions humaines derrière ça.
Mm-hmm.
J'ai des amis africains. Que j'aurais jamais rencontré ailleurs que dans ce monde-là, je pense,
mm-hmm.
dans la vie que j'avais avant.
Oui.
J'ai des amis d'autres nationalités aussi, aujourd'hui espagnols, ukrainiens, américains, etc., que j'ai rencontrés un petit peu partout.
Sur des festivals, par exemple.
Exactement.
Ou... Ouais, d'accord.
Sur des festivals.
Oui.
Donc voilà, donc ça m'a ouvert beaucoup de portes pour connaître d'autres personnes. Et ces gens-là, effectivement, sont aussi différents quand vous dansez avec eux sur la piste. Vous ne dansez pas de la même manière avec une jeune de 17 ans et une dame de 80 ans.
Mm-hmm.
Comme on danse pas pareil avec un Espagnol ou avec un Suédois, etc.
D'accord.
C'est chaque fois une approche très différente. Et comme on danse pas pareil avec une mince et une dame qui est beaucoup plus ronde,
mm-hmm.
etc.
C'est quasiment une étude sociologique à travers la danse.
Ben ouais, c'est génial.
Ouais. Et ça, s'il n'y avait pas eu la danse dans ta vie, tu ne te serais pas ouvert à tout ça ? Tu penses que tu n'aurais pas vu tout ça ?
Mais je pense que la vie fait que c'est beaucoup plus difficile d'avoir une concentration de culture ou de gens différents comme ça.
Mm-hmm.
Là, une soirée où je vais danser avec 30 personnes différentes.
Oui.
Et on va rencontrer, donc, tout ce que j'ai dit, des cultures différentes, des énergies différentes, des corps différents.
Oui.
Et chaque fois, c'est une nouvelle écoute, un nouveau partage, une volonté de créer ensemble, de partager ensemble.
Oui.
Et tout ça, c'est génial.
Ça va au-delà de la danse, hein. Tu dis même, oui, que, avec les danseurs, tu partages des moments de vie.
Oui, complètement. Mm-hmm. Complètement. C'est très intense, en fait. Parce que, on fait une création.
Oui.
Il faut être deux, on n'est pas seul. Donc, c'est un vrai partage.
D'accord. Vous partez en week-end ensemble à l'autre bout de la France pour aller danser. Comment ça se passe?
Oui, pour les festivals, il est fréquent qu'on crée des groupes. Hein,
mm-hmm.
Et on part à 4 ou ça peut être à 20 personnes sur des festivals. Et donc, on partage des moments de vie sur ces festivals
mm-hmm.
où on est à la fois donc, dans le festival, mais aussi ça nous permet de visiter des villes, pas des pays, hein, des villes, puisqu'on s'arrête juste le temps du festival.
Oui.
Voilà, donc ça, c'est aussi très, très intéressant.
D'accord. Donc, il y a la découverte de l'autre et puis il y a aussi la découverte de soi-même dans la danse. Qu'est-ce que tu as appris sur toi?
J'ai appris que je savais bouger.
Oui, contrairement à ce que tu croyais.
Voilà.
Mm-hmm.
J'ai un chat dans la gorge.
Mais parler de soi, parfois, ça le fait.
depuis le début, ça le faisait, en fait. Bon, on peut reprendre quand vous voulez.
Ah ouais. D'accord. Tu feras la. D'accord.
Ah, mais c'est bon, on a le. D'accord. Je disais quoi?
Donc, je te disais. Dans la danse, on découvre l'autre, mais on se découvre aussi soi-même.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, qui étais entre guillemets psychomoteur au départ,
oui,
mais petit à petit, j'ai vu que j'arrivais à maîtriser mon corps et à l'amener de plus en plus loin en termes de psychomotricité, justement.
D'accord.
Et donc, j'arrive à faire des choses aujourd'hui que je faisais pas hier, et tous les jours, je fais des choses encore différentes.
Oui.
Musculairement aussi, à l'âge que j'ai, je pensais pas que j'arriverais à avoir une telle puissance physique.
Mm-hmm.
Parce que je fais aussi je soulève les filles, je fais des choses comme ça.
D'accord.
J'avais également un problème à un genou quand j'étais beaucoup plus jeune, où les médecins m'avaient dit qu'à 40 ans, je suis dans une chaise roulante.
Oui.
En fait, ils voulaient m'opérer, faire une opération très grave, très, très, très difficile. Mais ils m'avaient dit que même en faisant l'opération à 50 ans, je serais quand même dans une chaise roulante.
D'accord.
Et en fait, aujourd'hui, j'arrive à me mettre en flexion sur les jambes, à soulever des filles qui font 80 kilos, j'ai aucun problème, hein,
mm-hmm.
puisque j'ai plutôt écouté mon corps que la médecine par rapport à ça.
Oui.
Et la danse, en fait, m'entretient le corps, voilà, c'est pour dire ça surtout, qu'elle m'entretient le corps et qu'elle me permet d'aller très très loin avec lui.
D'accord. Voilà. Donc, t'as fait copain-copain avec ton corps.
C'est ça, je l'adore maintenant.
C'est super. Et puis, la troisième découverte, c'est la musique.
Oui, puisque j'ai un rapport à la musique qui était très spécial avant. Pour moi, la musique, c'était quelque chose qui passait à la radio et qui représentait, oui, une époque.
Oui.
Et en aucune manière, c'était de l'art ou quelque chose qui s'écoutait ou se repassait.
Mm-hmm.
Vraiment, j'avais chez moi aucun disque, j'avais aucune cassette, puisqu'à l'époque, c'était de ça dont on parlait, il n'y avait pas de CD, de choses comme ça.
Oui.
Alors qu'aujourd'hui, c'est très, très différent. J'ai appris à écouter la musique, j'ai appris à l'apprécier. Il y a des morceaux que je passe en boucle. Tout ça, c'est toujours en liaison avec la danse, hein, puisque j'écoutais vraiment la musique pour la danser.
Mm-hmm.
Mais malgré tout, ça m'a appris à la découvrir.
D'accord.
Donc, notamment, il y a une musique qu'avant, je n'écoutais pas, qui était le zouk, qui était une musique que je ne comprenais pas.
Mm-hmm.
Et à travers la kizomba, qui est une autre danse dont on parlera après,
oui,
qui est issue du zouk, en fait, j'ai appris à écouter musicalement cette danse, cette musique, pardon,
oui, oui, oui,
et à l'aimer.
Alors d'accord.
Avant, ça n'aurait jamais été le cas.
Bon, alors ça fait beaucoup de découvertes pour une seule et même activité.
Oh là là, c'est énorme.
Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la danse, elle comble tous les besoins de la liste que tu t'étais faite à 30 ans?
Ah oui, à 300%, oui.
Ouais.
Ouais, ouais. Et c'est assez rigolo, puisque cette liste-là, je l'ai mis de côté, en fait.
Oui.
À un certain moment, et je l'ai ressortie il y a un an, je crois.
Mm-hmm. Tu es retombé dessus par hasard,
oui,
ou tu es allé la chercher?
Oui, par hasard, j'ai placé des papiers, en fait.
D'accord.
Et je suis retombé dessus, j'ai dit, tiens, ma liste, est-ce que je suis arrivé au bout?
Ouais.
Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais je suis allé même 10 fois plus loin. Je suis allé même au-delà de mes rêves.
D'accord. Hein. Oui. La danse a comblé tous ces besoins-là.
Complètement.
Bon, parfait. Alors, on a parlé des découvertes. On pourrait parler aussi des apports. Est-ce que la danse, elle t'a apporté quelque chose dans ton univers professionnel, qui est très très loin des danses latines, hein? Le secteur industriel, voilà. Est-ce que...
Oui, alors au même titre que le sport m'a apporté le fait que j'ai pu gérer le stress, etc., puisque j'ai travaillé dans des milieux qui étaient très stressants. Mm-hmm. Donc le sport m'a apporté un équilibre physique, on va dire, où je pouvais évacuer. La danse m'a permis de sortir des cadres du milieu professionnel qui sont très rigides.
Oui.
Il y a très peu d'expression possible pour arriver à être comme un enfant sur des pistes de danse, en fait, et avoir beaucoup de créativité et de liberté d'expression.
D'accord.
Donc ça m'a permis, en fait, de m'équilibrer dans le monde professionnel, d'avoir moins de pression, de rigidité, etc.
En fait, tu es en train de parler quelque part de lâcher prise.
Oui, tout à fait. Ça m'a apporté plus de légèreté, oui.
Oui, d'accord. Et pourtant, on pourrait dire que les danses, c'est tout un enchaînement, toute une chorégraphie, c'est des gestes au bon moment pour pas se blesser, pour pas blesser la partenaire. Donc, c'est quand même un cadre peut-être limitant.
Ben, disons qu'il y a les deux. Il y a la partie technique où effectivement, on va faire attention à tout ça, mais avec toujours une écoute qui est très importante. Et après, il y a une part créativité où on laisse, ou moi, pour ma part, en tout cas, je laisse des espaces de liberté. Pour moi et pour la partenaire, où là, c'est un lâcher prise total. Et là, il y a des découvertes de passes, des découvertes physiques, des choses, en fait, qu'on n'imagine même pas qu'on peut faire. Et tout d'un coup, elles se font, parce qu'on laisse cette liberté-là.
D'accord.
Et ça, c'est entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça à la radio, c'est un mot très jouissif, c'est quelque chose de très jouissif, en fait.
Oui.
Qui apporte beaucoup de plaisir.
Oui, comme si le corps s'exprimait sans qu'on ait raisonné avant une chorégraphie. Oui,
exactement.
C'est ça.
Exactement.
D'accord. Alors, Pierre, tu danses donc depuis 8 ans, 3-4 fois par semaine. Mmh. Donc, tu dois avoir maintenant un super niveau.
Ben, j'ai un niveau. Super ouais. Niveau, je sais pas. J'ai un niveau, je danse.
Oui, tu as du mal à définir ton niveau, hein, c'est ça?
Oui, comme on en a parlé pendant la préparation, en fait, ouais. je danse avec cet unique rapport au plaisir.
Oui.
Donc certains autour de moi disent que sur ces danses-là, j'ai un très bon niveau,
oui.
que moi, je ne vois pas, puisque je suis en constante évolution. Et voilà, j'ai du mal à mettre un curseur, en fait.
D'accord. Toi, en fait, ton critère, c'est simplement ton plaisir et celui de la partenaire.
C'est ça.
Plus qu'une histoire de niveau.
C'est ça. Je sais juste que mon niveau évolue tout le temps, puisqu'il progresse. Mais après, par rapport aux autres, j'aime pas me comparer dans la mesure où j'en parle comme d'un monde créatif.
Oui.
Chacun a son univers, donc chacun a son niveau, et pour moi, chaque niveau est identique à partir du moment où on prend du plaisir.
D'accord. Alors là, tu emploies encore le mot créatif, et c'est la créativité, tu en parles déjà depuis le début de l'émission. En fait, ton plaisir, c'est de pratiquer la danse à ta façon. Alors ça, c'est intéressant. Et tu m'as même dit, ce qui m'intéresse, c'est pas que ce soit beau à regarder quand je danse, c'est que ce soit beau à vivre.
Oui, c'est ça. C'est ça. Oula, je dirais pas mieux, là. T'as dit la phrase qu'il fallait dire.
Oui.
Oui, oui, c'est ça. Beau à vivre. Et t'as parlé aussi de la différence. Effectivement, moi, j'existe aussi. Je m'en aperçois un petit peu là quand on en discute à travers la différence.
Mm-hmm.
C'est-à-dire faire comme les autres m'a jamais intéressé. J'ai toujours existé en prenant des chemins différents parce que j'estime qu'il y a plus de découvertes.
Mm-hmm.
Donc, découvrir de nouvelles choses et après les faire à partager avec d'autres, pour moi, c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Voilà. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est beau à vivre dans ce sens-là.
D'accord. Donc on ne verra jamais Pierre en pantalon moulant sur une scène de Midi-Pyrénées.
Je pense pas.
Alors on écoute ton troisième extrait musical. Cette fois-ci, c'est de la kizomba. Thank you.
las estrellas con creo ya.
C'est un morceau de kizomba.
Oui, exactement. Ouais. La kizomba qui est une danse qui vient d'Angola.
Oui.
En fait, initialement, en Angola, ils dansaient le samba. Et un jour, il y a le groupe Kassab en 1985 qui est allé là-bas et qui a joué du zouk sur scène.
Mm-hmm.
Et les Angolais se sont dit, eh bien, tiens, si on faisait du samba sur du zouk, qui est une musique beaucoup plus lente que la musique samba.
Oui.
Et donc, ils ont adapté le samba avec de la musique zouk et ça a créé la kizomba.
D'accord. Et alors, cette kizomba, donc c'est ton nouveau truc, hein, c'est la danse que tu préfères actuellement.
C'est celle que je pratique après avoir pratiqué aussi pendant 2-3 ans la bachata.
D'accord. Et en quoi elle est différente justement de la salsa et de la bachata?
Alors, c'est une danse qui est beaucoup moins codifiée que la bachata et la salsa, puisqu'elle est beaucoup plus récente.
Oui.
C'est une danse qui est encore plus sensuelle que la bachata,
mm-hmm.
et qui se danse encore au plus près. Donc quand je dis près, c'est imbriqué, c'est-à-dire que le garçon, il a sa jambe qui est entre les jambes de la fille,
mm-hmm.
ce qui de l'extérieur peut paraître surprenant, mais en fait c'est très technique, puisqu'avec la jambe, en fait, on guide la fille avec cette proximité,
oui.
et on peut faire des dépasses qui sont assez complexes et assez intéressantes.
D'accord.
Et la différence aussi, c'est que comme la danse n'est pas codifiée, chaque garçon peut se créer son propre univers. Donc ça permet aux filles, chaque fois qu'elles dansent en soirée, en passant d'un garçon à l'autre, de découvrir des nouveaux univers et donc de voyager toute la soirée, ce qui est beaucoup moins le cas dans la salsa et dans la bachata.
D'accord. Comment tu fais maintenant que tu maîtrises au moins ces trois danses, et je pense qu'il doit y en avoir d'autres, pour ne pas te mélanger?
Mais en fait, ces danses-là, elles ont des, au niveau de la gestion des temps et de la musicalité, rien que le fait d'entendre la musique, en fait, eh bien, automatiquement, on se met dans les temps de la musique.
D'accord.
Par exemple, la salsa, c'est un 8 temps, mais il y a deux temps qui sont masqués. Donc, ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7.
Oui.
La bachata, c'est un 8 temps, mais les 8 temps sont marqués. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
D'accord.
Et la kizomba, c'est très différent. On a du 2 temps, du 3 temps et du 4 temps.
Mm-hmm.
Et donc, musicalement, on reconnaît de suite. Et donc, on s'adapte très, très facilement.
Ok. Après, c'est le corps, en fait, qui gouverne quelque part.
Ouais, le corps qui
écoute et il s'adapte,
fait. Ouais. On fait ça tout très simplement.
Ok. Alors tout à l'heure, on parlait des apports de la danse. Il y a un dernier cadeau aussi que la danse t'a apporté. C'est le rapprochement avec ta fille.
Oui, le rapprochement avec ma fille, puisque tout à l'heure, on a parlé de séparation ou de divorce, en fait.
Mmh.
Et j'ai ma fille qui n'a pas vécu avec moi pendant une dizaine d'années.
Oui.
Et donc, on avait des rapports depuis qu'on s'était séparés, qui étaient un petit peu éloignés par la force des choses, puisque je la voyais qu'une fois tous les 15 jours.
Oui.
Et un jour, ma fille s'est mise à danser la salsa, et elle s'est mise à aimer ça, et un jour, elle est venue sur Toulouse, et elle a voulu que je l'amène à une soirée salsa.
C'est toi qui lui as fait découvrir la salsa? C'est parce que tu l'as dansée qu'elle a eu envie d'essayer?
Oui, je pense. Je lui en parlais beaucoup, en fait. Elle a vu que ça me passionnait, que ça avait changé ma vie.
Mmh.
Et donc, un jour, elle a essayé, donc elle a beaucoup aimé aussi.
D'accord.
Et ça faisait 6 mois qu'elle dansait la salsa, elle est venue sur Toulouse, et elle m'a dit, papa, ça serait bien qu'éventuellement, on ait une soirée ensemble.
D'accord.
Alors moi, j'ai dit oui, mais tu sais, on dansera pas forcément ensemble, puisque bon, c'est quand même des danses de proximité, etc.
Oui.
Et donc, on est allé en soirée, et en fait, on a dansé toute la soirée ensemble.
Oui.
Parce que on a découvert que c'était un partage même entre père et fille qui était très très lié à la musique, au jeu, au partage, etc.
Mm-hmm.
Et qui avait absolument aucune dimension sensuelle là-dedans quand on le fait en famille,
mm-hmm.
parce que les distances se sont mises, etc. J'étais très surpris par ça. Après, j'ai pu observer que d'autres personnes, c'est exactement pareil. Des frères à des sœurs, des choses comme ça.
D'accord.
Et quand ils allaient en soirée ensemble, passaient beaucoup de temps ensemble à danser. C'est voilà. Et ça, je l'avais déjà vu dans des soirées africaines, des gens qui dansaient le zouk, le père avec la fille, des choses comme ça, avec le même rapport en fait. C'est vraiment le jeu, l'amusement. C'est quelque chose de très très sain et c'est un vrai partage.
D'accord. Et maintenant, alors, c'est devenu un trait d'union. Vous voyez pour danser, pour organiser des choses autour
c'est
de
ça,
la danse.
C'est ça. On a plaisir à, quand ma fille vient ou quand je vais la voir, d'organiser. Pour nous, en fait, des soirées comme ça. Alors, on danse pas toute la soirée ensemble, mais par contre, on va partager ces moments-là.
Mm-hmm.
Et on danse, bien évidemment, ensemble aussi dans ces soirées.
D'accord. Bah, c'est un super cadeau de la vie, ça.
Donc, ça, c'est énorme. C'est vraiment très, très bien, ouais.
Alors, Pierre, on a bien savouré avec toi tout ce que la danse a rempli dans ta vie. On peut dire ça, hein, qu'elle a rempli quelque chose.
Oui.
On sent quand tu parles que la danse, elle t'a épanoui, qu'elle t'a apporté une forme de plénitude.
Complètement. Ouais.
Alors, ma question, ça serait, qu'est-ce que tu peux dire aux auditeurs? Quels conseils positifs, évidemment, tu peux leur donner?
Ouais, j'en donnerai deux. J'en donnerai un déjà par rapport à la danse.
Oui.
Tous ceux qui ont des préjugés comme moi sur la danse, sur leur corps ou autre, c'est d'essayer parce que ça apporte tellement de choses dont j'ai parlé beaucoup de créativité, mais aussi physiquement. Au niveau de l'entretien physique, ça apporte énormément.
Mmh.
Au niveau de la découverte de l'autre, au niveau de la possibilité de voyager très simplement pour aller à droite, à gauche dans des festivals, etc., etc. Donc ça apporte énormément de choses. Moi, j'invite donc vraiment les gens qui ont des préjugés sur tout cela à essayer de danser. Ça peut changer leur vie.
Mmh.
Et après, c'est aussi de dire que il faut pas s'arrêter sur ses croyances et se battre comme j'ai pu le faire, en fait, pour chercher même sur des terrains où on pense qu'ils sont pas faits pour nous.
Ouais.
Donc, ne pas être fataliste par rapport à ce qui nous arrive, mais au contraire, rester très très positif et dire « Ok, je vais y arriver. Ok, ça fait 10 ans que je cherche, j'ai pas trouvé, mais je vais trouver.
Mm-hmm. »
Ne pas baisser les bras. Donc moi, je suis un exemple de quelqu'un qui a trouvé vraiment sa passion et qui aujourd'hui est très très heureux, épanoui, etc.
Super. Et est-ce que tu peux nous donner une adresse pour des débutants qui voudraient essayer de danser sans se sentir jugés?
Oui, il y a un temple à Toulouse qui s'appelle le Puerto Habana.
Oui.
Donc ça s'écrit P-U-E-R-T-O. Habana, ça s'écrit H-A-B-A-N-A.
D'accord.
En fait, c'est l'endroit où on danse la salsa depuis très 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 longtemps.
Mm-hmm.
C'est l'entrée est gratuite, on peut y aller donc très simplement. Et pour faire ses premiers pas de danse, en fait, c'est un endroit qui est très très intéressant.
D'accord. Quelle soirée tu conseilles? Enfin, quel soir de semaine tu conseilles?
Alors, en semaine, c'est surtout le mardi, mercredi et jeudi.
D'accord.
C'est uniquement dédié à la salsa, donc il y a aussi un petit peu de bachata, un petit peu de kizomba.
Mm-hmm.
Et il y a également des cours, donc il faut les appeler. Il y a des cours qui sont faits en début de soirée aussi dans cet endroit-là.
D'accord. Très bien. Et voilà comment Pierre s'est totalement réalisé dans sa passion, en dépassant ses préjugés et en travaillant sur des valeurs positives telles que la tolérance, le plaisir de partager et de donner à ses partenaires. Je te remercie Pierre pour ce beau témoignage.
Merci à toi pour ton accueil et m'avoir permis de témoigner sur ce point.
Bon, très bien. Merci beaucoup et encore de belles danses pour
toi. Merci, au revoir.
Chers auditeurs, voilà une idée d'activité qui peut apporter du positif dans votre quotidien. Cette émission est rediffusée samedi à 21h et vous la trouverez en podcast sur cfmradio.fr. Je vous rappelle que si vous avez envie de partager un message positif sur Ondes Positives, c'est simple. Vous m'écrivez à dorothee.alio@hotmail.com ou sur la page Facebook Ondes Positives CFM Radio. Très bonne semaine à vous et à mardi prochain.